Christine Ternoy, ravie de vous retrouver dans notre studio de La Garde pour cette émission.
Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous, chers amis. Très heureuse de vous retrouver dans la joie de Pâques, en espérant que celle-ci est toujours présente dans vos cœurs. Et je suppose que, comme moi, vous avez été heureux de pouvoir retrouver les offices de la Semaine Sainte et vivre la résurrection du Christ de façon normale, je dirais, après ces 2 années où rien ne fut vraiment normal dans ce domaine. Voilà, donc je suis très heureuse de vous retrouver. Et voilà, nous sommes au mois de mai, déjà 7 mois que nous avons ensemble découvert ou redécouvert ou approfondi la place des femmes dans les évangiles, l'importance de ces femmes. Et ce sur quoi j'insiste toujours, c'est la dimension particulière et spécifique de leur relation avec le Christ. Et alors donc aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une des femmes des évangiles qui a fait couler le plus d'encre, il faut le dire, l'une des femmes citée par les évangiles, qui est la plus célèbre après la Sainte Vierge, bien sûr. Et je veux parler, comme on vous l'a dit, de Marie-Madeleine, ou alors celle que les évangiles appellent Marie de Magdala. Magdala, les opinions sont un petit peu diverses. Certains pensent que elle est appelée comme cela à cause de son origine, d'une ville qui serait dans les environs du lac de Tibériade. D'autres savants pensent que le terme de Magdala est issu d'un terme qui voudrait dire des tours, des possessions. Bon, ce n'est pas très très, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Voilà, Marie de Magdala, ce que nous appelons nous Marie-Madeleine. Alors, au fur et à mesure, nous allons petit à petit essayer de voir ce que l'on sait de Marie de Magdala, mais le sujet est tellement vaste que nous allons essayer d'y aller doucement, comme d'habitude. Je vais encore m'excuser parce que vous trouverez certainement que je suis allée trop vite ou que j'ai oublié de parler de tellement de choses, mais voilà, dans le temps qui est imparti. Il n'est pas toujours facile de faire comme on voudrait. Alors, Marie de Magdala, elle apparaît dans tous les évangiles, mais pas de la même façon, parce que chez Luc, par exemple, elle est citée plutôt au début de l'évangile, puisqu'elle est citée au chapitre 8, que je vous lis, le chapitre 8, avec les versets 1 et 2. Il advint ensuite qu'il cheminait, on parle de Jésus, à travers villes et villages, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Donc voilà, chez Luc, elle est citée plutôt au début, et elle est citée avec les disciples, hein. Elles suivent Jésus, les 12 et ces femmes qui suivent Jésus et qui assistent Jésus et les disciples, on dit qu'elles les assistaient de leur bien. C'est une façon de comprendre qu'elles s'occupaient de tout ce qui était matériel, mettant certainement leur bien, leur possession matérielle, leur richesse. Au service de Jésus et des apôtres, mais non pas comme des servantes, mais vraiment comme des disciples, puisque nous retrouverons ces femmes, nous le verrons après, nous les retrouverons au pied de la croix. Alors, il y a eu très longtemps une tradition qui a été initiée par le pape Grégoire Ier au VIe siècle, qui a considéré donc que Marie de Magdala et Marie de Béthanie et ne faisaient qu'une, c'était la même personne. Et cette tradition a perduré dans l'Église très longtemps. Elle est encore soutenue par certains. Je remarquerai juste que à partir du Concile de Vatican II, il a été décidé de dissocier la fête de Marie de Magdala de la fête de Marie et Marthe de Béthanie. Hein, ces deux fêtes ne se célèbrent plus en même temps, ce qui tendrait à supposer que le travail des exégètes, la réflexion, a interrogé et peut-être émis quelques doutes quant à l'unité de ces deux femmes, Marie de Béthanie et Marie de Magdala. Pour ma part, bien que n'étant pas du tout spécialiste, je remarque juste que lorsque l'on parle de Marie, on l'appelle Marie de Magdala. Lorsque l'on parle de Marie, on l'appelle Marie et on la situe à Béthanie. Et connaissant la précision des évangélistes, je me dis que si ils prennent la peine de citer bien Marie de Magdala à chaque fois, c'est qu'ils veulent bien préciser la personne pour qu'elle ne soit peut-être pas confondue. Voilà, c'est mon opinion serait que effectivement on ne peut pas faire d'une seule personne les différentes figures qui apparaissent dans les évangiles, la femme pécheresse, Marie de Béthanie, Marie de Magdala. Les textes ne sont pas extrêmement clairs pour nous permettre de bien différencier ces femmes, mais il y a quelques détails qui nous permettent peut-être de les différencier. On a dit aussi que la pécheresse, hein, qui est, dont j'ai déjà parlé, la pécheresse qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes, au chapitre de Luc, juste au chapitre 7, hein, elle a répandu du parfum sur les pieds et elle les a essuyés avec ses cheveux. Certains disent que c'est bien Marie de Magdala. Il n'empêche que, quel que soit... la réalité, ce qui n'est pas le plus important à mon sens, je voudrais préciser que Marie-Madeleine est toujours représentée avec les cheveux lâchés sur les épaules. Et vous remarquerez que dans les églises, c'est toujours à ce détail que l'on peut la distinguer d'autres saintes, en particulier de la distinguer de la Vierge Marie, qui a toujours un voile, et les autres saintes qui sont habillées de façon particulière. Marie-Madeleine est toujours représentée avec les cheveux lâchés sur les épaules, sans doute cela à cause de cette tradition antique de la confondre avec la femme pécheresse et Marie de Béthanie. Dans la tradition orthodoxe, qui bien évidemment a une grande dévotion aussi pour Sainte Marie-Madeleine, elle est par contre non pas représentée avec les cheveux lâchés, elle est représentée avec un flacon de parfum qui représente la myrrhe qu'elle porte le matin de la résurrection, hein, pour aller prendre soin du corps de Jésus, puisque selon la tradition de l'époque, les femmes n'avaient pas pu rendre à Jésus les gestes de l'embaumement. Il avait fallu que les femmes attendent la fin du sabbat. Et donc la tradition orthodoxe la représente avec ce flacon de parfum qu'elle porte dans ses mains. Voilà, quoi qu'il en soit, nous savons, je vous parlerai peut-être à la fin de ce que nous, Provençaux, puisque je suis à la Garde, la Valette du Var, Toulon, Saint-Maximin, nous ne sommes pas très loin de la basilique, donc nous avons en Provence une tradition très bien établie sur Marie-Madeleine, qui n'est pas la même que la tradition des orthodoxes, mais peu importe. Je crois que ce n'est vraiment pas le plus important. Il y a une chose que nous savons de source sûre, puisque Luc nous le dit, nous savons que Marie de Magdala fut délivrée de 7 démons. Hein, et que, délivrée des 7 démons, elle a suivi Jésus tout au long de sa vie terrestre, et elle est citée en plusieurs endroits. Alors, si Luc cite Marie-Madeleine plutôt au début de son évangile, il faut bien admettre que c'est plutôt au moment de la crucifixion, au moment de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ que le personnage de Marie-Madeleine occupe une place très importante. En effet, dans tous les évangiles, elle a Elle est l'un des personnages principaux dans le récit de la résurrection et dans l'annonce de la résurrection. Elle est citée donc particulièrement déjà lors de la crucifixion. Nous savons que tous les disciples ont fui. Nous savons qu'il ne reste que Jean avec Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix. Et pourtant, tous les évangiles nous disent qu'il y avait quelques femmes qui regardaient, mais qui regardaient à distance. Et ce sont des femmes dont les évangiles nous disent que ce sont celles qui suivaient Jésus depuis la Galilée. Les femmes étaient là. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit plusieurs fois, à cette époque, les femmes étaient comptées pour peu. Elles étaient là, elles étaient. Voilà, c'était des personnages qui accompagnaient les deuils de leurs pleurs, enfin qui étaient considérés un peu comme peu de choses. Et finalement, ce mépris dont elles étaient l'objet, finalement, leur permet, au moment où le Christ est mis en croix, leur permet de rester prêts, alors que les autres disciples se sont tous enfuis et se sont cachés. Il faut reconnaître et il faut remarquer que les évangiles sont précis puisqu'ils nous disent que Jean et Marie, la mère de Jésus, sont au pied de la croix. Ils sont tout près de la croix. Ces femmes-là, elles sont à distance. Et il me semble que les textes le précisent et je pense que ce n'est pas anodin. En effet, le rôle de ces femmes, ce groupe de femmes dont fait partie Marie de Magdala, eh bien, c'est un rôle de témoin silencieux, de témoin souffrant avec le Christ. Et cela est très net dans les évangiles. Et les femmes, elles regardent, elles lèvent les yeux et elles apparaissent d'une certaine façon comme les veilleurs de ce temps d'agonie du Seigneur. Hein, et parmi, donc il est redit que parmi ces femmes se trouve Magdala, se trouve Suzanne, se trouvent ces femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Ces mêmes femmes, une fois le sabbat passé, en fait, se hâtent pour s'occuper du corps de Jésus. Hein, les disciples sont encore terrés dans la maison, ils sont encore enfermés dans leur pièce. Elles ont préparé les aromates et elles sont déjà prêtes à remplir leur rôle, leur mission qui est de prendre soin du corps du Seigneur. Cette insistance nous fait toucher du doigt cette spécificité féminine de la proximité avec le corps, avec le souci de soigner, le souci d'honorer le corps du Seigneur, mais à travers ce souci d'honorer le corps du Seigneur, apparaît ce souci quasi maternel que porte la femme en elle de prendre soin du corps de ceux qui l'entourent. Et c'est donc dans cet épisode où les femmes se hâtent pour s'occuper du corps, c'est à ce moment-là que nous voyons la place toute spéciale qui est accordée à Marie-Madeleine dans cet épisode, puisque là nous sommes dans l'évangile de Jean, hein, qui nous raconte tout l'épisode en donnant une très grande place à Marie-Madeleine. Tout d'abord, nous voyons que c'est elle qui constate que le tombeau est vide. Hein, je vous invite, si vous avez votre Bible tout près de vous, au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau. Et comme il faisait encore sombre, elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. J'aime bien cette précision, il faisait encore sombre. On a l'impression que finalement, Marie de Magdala, elle respecte les principes, les préceptes de la religion, mais elle a hâte de s'occuper du corps du Seigneur que il fait encore sombre. Elle a une façon toute féminine de respecter les préceptes de la loi. Et donc, elle aperçoit, nous dit le texte, la pierre enlevée du tombeau. Elle court et vient trouver Simon-Pierre et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Donc il y a l'épisode de Pierre et de Jean qui sortent, qui courent. Voilà, c'est elle qui va avertir d'abord les disciples que le Seigneur n'est plus, que le corps du Seigneur n'est plus là où il devrait être. Et donc les disciples viennent, entrent dans le tombeau, le voient vide et s'en retournèrent chez eux. Les disciples s'en retournent chez eux et Marie de Madeleine est restée près du tombeau. Elle ne peut se consoler. Elle ne peut se consoler parce qu'elle ne sait pas où est le corps du Seigneur. Elle veut l'honorer. Marie se tenait près du tombeau au dehors et tout en pleurs. Jean nous le dit bien qu'elle pleure. Elle se penche vers le tombeau qui est un lieu de mort, pour essayer de trouver celui qu'elle pense être, ou de comprendre pourquoi est-ce que ce corps n'est pas là. Et elle voit les deux anges qui, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, un à la tête, l'autre aux pieds, et les anges qui lui parlent et qui lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Elle leur répond, elle ne leur demande pas qui ils sont, elle ne pose pas de questions, elle n'est pas curieuse, Elle, sans se demander qui ils sont, elle répond « On a enlevé le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Sa seule préoccupation est de retrouver ce corps, le corps de ce Seigneur qu'elle a aimé, et elle ne sait pas où il est. La seule chose qui l'intéresse, c'est cela, c'est l'absence de Jésus, parce qu'elle ne comprend pas le pourquoi de cette absence. Et à peine a-t-elle dit cela qu'elle se retourne. Mais ce n'est pas parce qu'elle voit Jésus, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus, elle ne le reconnaît pas, parce qu'elle a besoin pour le reconnaître de quelque chose de plus qu'un simple regard humain, mais elle ne le sait pas encore. Il faut qu'elle le regarde avec des yeux qui soient des yeux habités par la présence. Elle le prend pour le jardinier. Elle le prend pour quelqu'un qui a peut-être caché le corps. Et elle lui demande, elle voit Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle le prend pour le jardinier. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. Ce souci qu'elle a, cette angoisse qu'elle a de retrouver le corps de son Seigneur est vraiment très frappant. Et donc elle voit Jésus sans le reconnaître. Et c'est à ce moment-là que Jésus l'appelle par son nom. Et je ne peux pas m'empêcher, lorsque je lis et ce que je dis, Jésus l'appelle par son nom, de penser à ce psaume. Je t'ai appelé par ton nom, c'est moi qui t'ai tissé dans le sein de ta mère, etc. Jésus l'appelle par ce nom et elle se retourne encore, mais au lieu de se retourner en arrière, comme la première fois, elle se retourne. Vous savez, souvent, on dit que le terme « se retourner » est très proche de celui de se convertir, parce que lorsqu'on se convertit, on se tourne, on se retourne. Donc elle se retourne, et c'est là qu'elle l'appelle « Rabouni », qui est un terme qui est respectueux, hein, qui est une sorte de diminutif de « rabbi », qui veut dire « maître ». C'est un terme qui est très respectueux, mais qui est en même temps très personnel. Et l'on comprend que Marie a reconnu le Seigneur lorsque celui-ci l'a appelé par son nom. Et lorsque Jésus lui dit « ne me touche pas », eh bien, cet impératif de Jésus « ne me touche pas car je ne suis pas encore montée vers le Père » nous fait comprendre que Marie-Madeleine a eu un élan pour le prendre, le toucher, l'attraper. Et c'est pour cela que Jésus lui dit « ne me touche pas, je ne suis pas encore montée vers le Père ». Et c'est à ce moment-là que la joie de Marie-Madeleine va totalement changer de nature, puisque elle est devenue témoin de la résurrection et que c'est elle qui doit aller l'annoncer aux disciples. C'est en reconnaissant Jésus lorsqu'il l'appelle par son nom, et c'est lorsque Jésus lui dit « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, votre Père vers mon Dieu et votre Dieu », que Marie de Magdala devient réellement disciple, devient apôtre, parce qu'elle annonce aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Donc Marie de Magdala prend vraiment toute la place de disciple dans cette mission qui lui est donnée par le Seigneur dans l'évangile de Jean pour aller annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur. Alors, nous allons quitter l'évangile de Jean pour aller chez Matthieu, parce que Matthieu nous dit autre chose de la mission de Marie de Magdala et des autres femmes. En effet, dans l'évangile de Matthieu, Marie-Madeleine et les autres femmes doivent témoigner auprès des apôtres que le Christ est vivant, ce qui est déjà très difficile comme témoignage, nous le savons tous, parce que lorsque nous annonçons autour de nous que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il n'est pas mort, nous savons tous combien il est difficile de faire ce témoignage. Mais non seulement les femmes doivent annoncer que le Christ est vivant, mais en plus elles doivent indiquer aux disciples où les disciples pourront le trouver. Et contrairement à ce qu'auraient pu penser les disciples, ce n'est pas dans la ville sainte de Jérusalem que le Christ ressuscité les attend. Ça aurait pu être logique. Non, ils ont rendez-vous en Galilée. La Galilée, c'est extraordinaire parce que la Galilée, c'est une terre qui est plutôt païenne. C'est une terre qu'on pourrait appeler une terre mélangée. Je vous en ai déjà parlé. Eh bien, c'est là que Jésus veut retrouver ses disciples pour les envoyer en mission. Mais il s'agira d'une mission de dimension universelle. En effet, Jésus donne rendez-vous par l'intermédiaire de Marie-Madeleine et des femmes. Il donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. Et comme nous le dit le chapitre 28 de Matthieu, quand aux disciples se rendirent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous, et quand ils le virent, ils se prosternèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. » Voilà quelle est la mission que Marie-Madeleine et les femmes ont reçue. Et ce qui explique que on a très souvent appelé Marie-Madeleine en particulier l'apôtre des apôtres, puisque elle a reçu de façon particulière cette mission d'aller annoncer la résurrection du Christ, le salut en œuvre, et surtout de dire aux disciples où il fallait qu'ils se rendent pour pouvoir rencontrer le Christ. Après ce rapide parcours des textes qui nous parlent de Marie-Madeleine, donc je vous invite à les relire ces textes parce qu'ils sont très touchants, mais si nous nous arrêtions uniquement là, nous serions comme au milieu du gué, comme on dit, parce que il me semble qu'il est important aussi d'écouter, de comprendre ce que nous dit encore aujourd'hui Marie-Madeleine à travers ces textes. Et donc je voudrais avec vous évoquer 3 ou 4 points qui me semble important pour entrer dans une meilleure connaissance, compréhension de Marie-Madeleine et voir comment est-ce que, à travers les siècles, Marie-Madeleine nous parle encore et continue de vivre cette mission d'apôtre des apôtres. Alors, Marie-Madeleine, donc prisonnière de sept démons, comme nous le dit l'évangile de Luc, comme je vous l'ai dit au début, c'est une expression qui est un petit peu mystérieuse. Alors, évidemment, les sept démons, cela fait penser aux 7 péchés capitaux. J'ai lu que certains supposent que c'était peut-être une courtisane de la cour d'Hérode, mais d'autres pensent qu'elle avait des maladies, qu'elle avait été atteinte de maladies nerveuses très invalidantes. En fait, nous ne savons pas quels étaient ces 7 démons. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que Jésus, en la guérissant, la sauve, comme il est précisé dans l'évangile de Luc. Et depuis qu'elle est libérée de ses démons, depuis qu'elle est libérée de son péché, elle s'est attachée à la personne du Christ. Et là, nous entrons dans quelque chose de particulier, car il est évident, surtout lorsque on a lu les textes de la résurrection, nul doute qu'il y a eu entre Jésus et Marie-Madeleine une communion d'âme qui reste et qui demeure un mystère pour nous. Et j'insiste bien là-dessus, communion d'âme qui n'a absolument rien à voir avec une histoire d'amour comme les textes apocryphes l'ont supposé et surtout comme certains romanciers actuels veulent nous le faire croire. Ce sont certes des histoires passionnantes mais qui ne sont rien d'autre que des élucubrations car ce qui lie Jésus à Marie-Madeleine est bien d'une toute autre nature. Marie-Madeleine, elle a expérimenté l'entrée du Seigneur dans sa vie d'une façon totale. Et cette entrée du Seigneur dans sa vie a fait que plus rien n'avait d'importance pour elle que la personne de Jésus. Voilà la première remarque que je voulais faire. Je voulais vraiment évacuer ces suppositions qui ne reposent absolument sur rien. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est que les textes sont unanimes pour remarquer la discrétion des femmes qui accompagnaient Jésus. Hein, on dit que les femmes le servaient, mais on voit que lorsque Jésus envoie les disciples en mission, elles ne font pas partie, elles ne sont pas envoyées en mission comme les disciples. Il n'y aura pas de femmes lors de la scène, hein, il n'y a pas de femmes même lors de l'arrestation, puisque Jésus est au Jardin des Oliviers avec ses disciples. Non, ce que l'on voit, c'est que le rôle des femmes qui est totalement concentré dans la personne de Marie de Magdala, eh bien ce rôle, c'est une présence indispensable qui se fond dans la réalité humaine de la vie terrestre de Jésus. Elles sont intimement liées à la vie terrestre de Jésus. Elles l'assistent dans les moments les plus essentiels de cette vie. Et il y a entre les femmes et Jésus cette relation extrêmement particulière. La discrétion, cette discrétion donc est aussi est leur marque, mais il faut aussi remarquer la présence quand tout semble quand tout le monde semble abandonner Jésus. Hein, on peut penser à la femme que la tradition appelle Véronique, hein, qui lui essuie le visage. On peut penser aux femmes qui pleurent sur le passage lorsque Jésus porte sa croix. Et comme je vous l'ai dit, Marie, Madeleine et les autres femmes qui ne pensent qu'à honorer le corps de Jésus, qui sont extrêmement sensibles à cette dimension charnelle, corporelle, de la réalité du Christ. Et c'est important pour nous à une époque où on a tendance à transformer Jésus en espèce d'esprit un petit peu insaisissable. Eh bien, ces femmes nous redisent la réalité du corps de Jésus. On peut remarquer que lorsque tout espoir semble mort, eh bien, les femmes savent occuper ce temps avec leur compassion. Et lorsque tout le monde abandonne Jésus, que tout le monde se moque de lui, hein, lorsqu'il est crucifié, les passants se moquent de lui, eh bien, Marie-Madeleine et les autres femmes sont là. Elles ne sont pas trop près, comme si elles voulaient laisser toute la place à Jean et à Marie, la mère de Jésus. Mais elles sont là. Elles contemplent en silence celui qu'elles ont tant aimé et qu'elles ont servi, et comme si aucune peur et aucune souffrance ne pouvaient les détourner de la contemplation du Seigneur. Encore une troisième remarque, à peine le sabbat fini, elles pensent uniquement aux soins à donner à ce corps de Jésus, avec cette capacité toute féminine d'agir, hein, où Marie-Madeleine et les femmes ont préparé les parfums, elles ont préparé les onguents, elles ne se sont pas laissées accabler par le chagrin, elles sont conscientes de leur devoir à accomplir, et c'est là que l'on retrouve Marie-Madeleine qui cherche ce corps qu'elle a tellement besoin d'honorer, et bien évidemment cela... je cherche le corps de mon Seigneur. Nous ne pouvons pas ne pas penser au passage du Cantique des Cantiques, particulièrement. Alors, je pourrais presque dire que je prendrais au hasard, je prends le chapitre 3, celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. On a vraiment... l'impression que la recherche de Marie-Madeleine est vraiment une autre façon de réciter ce cantique des cantiques qui est aussi le chant d'amour entre Dieu et son peuple. Quatrième remarque que nous pouvons faire, Marie-Madeleine, considérée comme l'apôtre des apôtres depuis le pape Grégoire dont je vous ai parlé, c'est à elle qu'est revenue la charge, je dirais un petit peu de façon triviale, d'aller secouer les apôtres. Elle a reçu la charge de les relever de leur torpeur, de les relever de leur douleur. La charge surtout de leur indiquer où est-ce que le Seigneur devait être cherché. La charge de leur indiquer où le Seigneur leur donnait rendez-vous. Pas forcément là où on attendrait qu'il soit, mais toujours dans un lieu où l'homme souffre de l'absence de la présence divine. Et il me semble que c'est extrêmement important de comprendre que Marie-Madeleine, avec ce titre d'apôtre des apôtres, comprendre pourquoi elle tient une place essentielle dans la foi de l'Église. Donc ainsi, la personne de Marie-Madeleine n'est pas seulement une belle figure de l'Évangile, n'est pas une figure que nous pourrions contempler de loin en disant c'est une belle histoire. Au contraire, Marie-Madeleine, pour nous, et la figure du disciple parfait, c'est en cela que je dis qu'elle nous enseigne encore à travers les siècles. En effet, Marie-Madeleine, elle est sauvée par le Christ qui la délivre de ses démons, tout comme nous, nous sommes sauvés par le Christ maintenant, aujourd'hui, par le baptême, ce baptême qui nous délivre de nos démons, et que nous soyons hommes ou femmes, ce baptême nous donne la force de les combattre victorieusement. Comme Marie-Madeleine, nous sommes invités à marcher à la suite du Seigneur, nous sommes invités à le servir humblement, chacun à notre place, selon notre vocation propre et selon nos charismes. Marie-Madeleine est là pour affirmer que nous avons chacun une place dans le service du Seigneur et que nous avons chacun une vocation qui nous permet de vivre notre état d'enfant et de fils et de fille de Dieu. Donc, voilà ce que Marie-Madeleine nous enseigne. Elle nous enseigne aussi à ne jamais rester insensible à la souffrance qui touche notre prochain, quel qu'il soit. Elle nous enseigne à contempler cette souffrance pour l'offrir. Elle nous enseigne aussi, Marie-Madeleine, à toujours le chercher, ce Seigneur, à ne jamais nous contenter de ce que nous avons déjà découvert, à toujours être dans cet état d'esprit de dire « Mais où es-tu, Seigneur ? Où es-tu ?» Parce que nous ne pouvons jamais dire que nous l'avons totalement trouvé. Donc, Marie-Madeleine nous invite toujours à chercher le Seigneur, à chercher ce corps du Christ qui est maintenant, qui nous est donné dans le sacrifice de l'Eucharistie. Ne jamais nous contenter de ce que nous pensons avoir découvert. Toujours, il nous faut nous convertir une fois, deux fois, jusqu'à ce que nous entendions à nouveau le Seigneur nous appeler par notre nom et nous permettre de le reconnaître. Voilà, dans la joie de savoir le Christ ressuscité, Marie-Madeleine nous enseigne que nous sommes appelés à l'annoncer. Nous sommes appelés à le rejoindre et nous sommes appelés à l'annoncer à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc voilà que Marie-Madeleine, par ce que les évangiles nous en disent, eh bien, elle est non seulement une très belle figure, mais elle est pour nous, elle nous enseigne encore aujourd'hui, elle nous apprend encore aujourd'hui à aller plus avant dans notre vocation de disciple du Seigneur. Alors, je ne veux pas finir sans citer bien évidemment notre tradition provençale qui nous affirme que Marie-Madeleine, ayant débarqué au Sainte-Marie de la Mer, est venue en Provence pour l'évangéliser, qu'elle a fini sa vie dans la grotte de la Sainte-Baume, lieu absolument merveilleux, que la tradition nous dit que les anges l'élevaient 7 fois par jour le haut des falaises pour prier. Alors certains diront baliverne, que tout cela, ce ne sont que des légendes. Non, je voudrais dire que parfois, lorsque l'on parle de légendes, c'est que l'on ne veut pas croire les traditions. Donc, nous, Provençaux, eh bien, nous vénérons Marie-Madeleine dans la basilique. C'est la patronne de la Valette du Var. C'est aussi la patronne des jardiniers. C'est la protectrice de la Provence. C'est notre sainte de Provence. Et voilà, je vous confie, où que vous soyez, même si vous êtes très loin de nous, je vous invite un jour à pouvoir venir vous visiter cette magnifique grotte de la Sainte-Baume et à vous recueillir sur les reliques de Sainte-Marie-Madeleine.
Chers auditeurs, c'était votre émission La Femme dans le cœur de Jésus. Vous étiez avec Christine Ternoire. Il y était question de Sainte-Marie-Madeleine. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.